Il est 8h54 sur France Culture et voici la radiographie du coronavirus. Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Vous voulez revenir sur l'hydroxychloroquine et sur le dogme pharmaceutique primum non nocere.
Oui, primum non nocere, c'est-à-dire avant tout ne pas nuire, c'est le principe de non-malfaisance qui guide toute recherche en pharmacologie. Un nouveau médicament doit bien sûr être utile, prouver son efficacité, mais avant tout, il doit surtout ne pas nuire, ne pas être plus délétère qu'il n'est efficace. Or, le Centre Régional de Pharmacovigilance de Nice a répertorié en date du 11 avril 54 cas de troubles cardiaques liés à la prise d'hydroxychloroquine, dont 8 décès. Ces notifications d'effets secondaires proviennent de l'ensemble du territoire. Elles sont normalement obligatoires pour les professionnels de santé qui doivent notifier toute anomalie liée à la prise d'un traitement. Mais dans la réalité, seuls 5% d'entre eux le font, ce qui fait dire à Milou Daniel Drissi, qui est responsable du CRPV de Nice, que ces chiffres ne sont très certainement que la partie visible d'un iceberg qui pourrait être beaucoup plus conséquent, puisque 95% des cas pourraient ne pas être identifiés. Alors que disent exactement ces rapports de pharmacovigilance? Qu'il y a trois types de toxicité liées à la prise d'hydroxychloroquine. Le premier, le plus courant, pour 36 cas répertoriés sur 54, eh bien c'est une légère arythmie cardiaque qu'on appelle prolongation de l'intervalle QT. En résumé, il s'agit d'une perturbation de la contraction du cœur due au fait que l'hydroxychloroquine bloque les canaux à potassium, c'est une voie de communication entre les cellules. Et bien à cause de ce blocage, il y a une désorganisation de la communication entre les cellules du myocarde et donc une désynchronisation des battements entre les différents ventricules. Dans les cas bénins, ce phénomène se constate simplement à l'électrocardiogramme, il se dissipe de lui-même en provoquant parfois éventuellement quelques palpitations, voire des malaises. Le second type, pour une dizaine de cas, c'est l'étape d'après. C'est l'arythmie. L'arythmie devient plus forte et elle conduit à des pertes de connaissance brèves avant retour à la normale. Le troisième type, ce sont les cas aigus. Lorsque ces allongements de l'intervalle QT aboutissent à ce qu'on appelle une torsade de pointe, cette torsade entraîne une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que le cœur ne bat plus, il tremble, ça provoque une perte de connaissance et sans intervention immédiate en milieu hospitalier, la personne meurt subitement.
L'hydroxychloroquine est un médicament qui existe depuis longtemps. Comment se fait-il, Nicolas, qu'on ne découvre ses effets secondaires que maintenant ?
Eh bien, ces effets secondaires, on les connaît en fait de longue date. Je vous rappelle que l'hydroxychloroquine est prescrite depuis 1975, notamment pour traiter le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. Or, depuis 1975, en 45 ans, donc, 393 cas de troubles cardiaques ont été recensés, dont aucun mortel. Ça, c'est pour ces deux maladies, le lupus et la polyarthrite. Pour la Covid, en 3 mois, c'est déjà près de 60 cas recensés, dont 8 mortels. Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi une telle différence ? Plusieurs hypothèses. La première, c'est que, comme l'explique le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament, Dominique Martin, les malades du Covid sont plus fragiles sur le plan cardiovasculaire et donc plus susceptibles que les personnes lambda d'avoir des problèmes avec des médicaments délétères pour le cœur comme l'hydroxychloroquine. Une autre hypothèse serait l'effet cocktail de l'association hydroxychloroquine avec l'antibiotique azithromycine qui a également des effets bloquants sur les canaux potassium. Et puis il y aurait également l'effet du dosage, la toxicité cardiaque de l'hydroxychloroquine est ce qu'on appelle dose dépendante. Or, pour le lupus, la dose quotidienne est entre 200 et 400 mg par jour, là où le protocole proposé par les équipes de Diraou en prescrit 600. Que des médicaments et dans des protocoles expérimentaux aient des effets secondaires, rien de plus normal. Par ailleurs, en période de crise sanitaire, on pourrait avancer que ces risques, certes graves, sont bien peu de choses par rapport aux services rendus par la molécule qui guérit des centaines, voire des milliers d'autres patients. C'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Et c'est précisément là où le bât blesse. Parce qu'en l'état actuel des connaissances, les bénéfices de l'hydroxychloroquine ne sont toujours pas prouvés du fait de la faiblesse méthodologique répétée des études et des essais fournis par les équipes de Didier Raoult. Sans entrer une nouvelle fois dans le détail, je vous renvoie à mon autre chronique à ce sujet, il suffit de rappeler qu'en l'absence de groupe de contrôle, c'est-à-dire un groupe témoin qui est certes soigné et qu'on ne va pas laisser mourir sans prodiguer le moindre soin comme j'ai pu lire ou entendre. Donc sans un groupe témoin pris en charge face à un autre groupe pris en charge avec en plus l'administration d'hydroxychloroquine, eh bien il est impossible de dire que le groupe avec l'hydroxychloroquine guérit mieux que le groupe sans, et ce, d'autant plus pour une maladie dont je vous rappelle 95% guérit spontanément. Est-il acceptable de prendre le risque de voir des patients mourir spontanément en prenant une molécule dont le bénéfice, la capacité à guérir, n'est pas prouvé? Pour Dominique Martin, le rapport bénéfice-risque paraît acceptable à l'hôpital et en l'absence de traitement reconnu, mais inacceptable en ville, où un patient ne pourra pas être secouru en cas d'arrêt cardiaque. De son côté, la Suède a tranché dans ce débat de façon plus vive, tous les hôpitaux ayant arrêté de prescrire de l'hydroxychloroquine depuis fin mars, compte tenu des trop faibles preuves actuelles d'efficacité de la molécule.
Merci Nicolas Martin pour cette radiographie du coronavirus que l'on retrouve sur le site de France Culture.